Seigneur, soit à ta gloire, soit à ton honneur, Seigneur. Et vraiment, je te prie aussi, Seigneur, pour que elle nous aide à mieux te connaître, justement. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Gloire à toi, Père. Amen. Bonjour à tous. On le dit souvent, on l'a chanté, je veux apprendre à mieux te connaître. Vous savez que Dieu, s'il avait voulu, il aurait pu se révéler en disant, un peu comme il l'a fait d'ailleurs, hein, il s'est révélé plusieurs fois, il y a plusieurs manières avec lesquelles Dieu s'est révélé aux hommes, notamment une très grandiose, hein, quand il a été sur la montagne, ça devait être en jeté, comme on dit. Mais en fait, dans la Nouvelle Alliance, quand Dieu se révèle, c'est dans l'anonymat quasiment. Et c'est dans une relation simple. C'est quand il nous évoque ce qui nous attend, il parle d'un mariage. Dans les écrits des prophètes, on lit plusieurs fois que Dieu, quand il évoque les hommes, quand il évoque son amour pour son peuple, il parle d'une jeune fille et lui se met comme son mari. C'est-à-dire que Dieu, dans son amour, dans sa grâce, il se rabaisse à notre niveau pour nous montrer, il veut nous montrer que, il veut nous considérer comme son égal. On n'est pas son égal, hein. On n'est pas Dieu, hein. Mais Dieu se met à notre niveau. Est-ce qu'on réalise? Quand Dieu parle d'un mariage, quand Dieu a institué le mariage, il a créé la femme pour qu'elle soit quoi? Son vis-à-vis. Et quand Dieu évoque son amour pour les hommes, quand il évoque l'Église, il est question des noces de l'agneau. Et l'Église se retrouve, nous qui sommes de vulgaires humains, je dirais, il nous considère comme son vis-à-vis. Est-ce qu'on réalise un peu? Est-ce qu'on réalise que à quel point Dieu se rabaisse à notre niveau, ou alors nous élève jusqu'au sien? Alors, on n'est pas Dieu, hein. Mais j'aimerais ce matin que justement, alors que c'est tout ce que Dieu veut, qu'on puisse considérer justement un peu son cœur. Souvent, quand on lit les paroles de Dieu, je ne sais pas, quand vous lisez par exemple les 10 commandements, la Bible dit, il y a plusieurs paroles dans la Bible, il y en a notamment une qui est très importante qui dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bon, c'est écrit. Quand c'est l'abondance du cœur que la bouche parle, est-ce qu'on imagine aussi que quand Dieu parle, c'est aussi de l'abondance de son cœur qu'il parle? Et ce qu'il dit, ça sort de son cœur. Ce qu'il dit nous révèle qui il est, en fait. À chaque fois qu'il dit quelque chose, il se révèle un peu plus. Parce qu'il est en train de nous dire ce qu'il y a dans son cœur. Par exemple, quand Dieu nous dit « tu ne mentiras pas », qu'est-ce qu'il nous dit à mot couvert? À mot couvert, il nous dit que lui, il ne peut pas mentir. Et comme il nous a créés pour qu'on soit à son image, comme lui ne peut pas mentir, ben il nous appelle à lui ressembler, tout simplement. À chaque fois qu'il parle, il se dévoile. Et il se met devant nous. Et ce matin, j'aimerais, à travers cette réflexion, cette méditation, qu'on puisse essayer d'effleurer un peu, de toucher du doigt un peu son cœur. Dans toutes sortes, enfin, dans une situation, on va évoquer peut-être une position, des manières de faire de Dieu. Mais j'aimerais qu'on comprenne certaines choses. On va commencer par une lecture dans Hébreux au chapitre 4. C'est une invitation. Mais à travers tout ce qu'on va lire ce matin, c'est vraiment ce qu'il y a sur mon cœur ce matin, qu'on essaye pas de regarder notre nombril et les bienfaits que Dieu veut nous donner pour nous. C'est un peu souvent ce que j'ai à dire sur certains chants aujourd'hui. On a beaucoup de chants qui sont tournés vers nous. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Énormément de chants qui disent « je suis, j'ai », etc. « Seigneur, tu es mort pour moi, pour que je suis, pour que je sois. » Et c'est « je » tout le temps. C'est vrai que Dieu nous aime. Et son attention est toujours tournée vers nous. Mais le but, c'est que ce soit réciproque. Donc, normalement, nous, notre esprit ne doit pas être tourné vers nous, parce que Dieu est déjà tourné vers nous. Nous, on doit être tourné vers lui. Ça, c'est une réalité qui est... Et quand on lit n'importe quoi qu'on lit, même quand nous en sommes les bénéficiaires, essayons de regarder ce que Dieu fait, ce que Dieu veut faire, son cœur. Essayons de regarder son cœur. Hébreux chapitre 4. On va lire jusqu'au verset 10. Craignons donc, tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste, que personne parmi vous ne pense être venu trop tard. Car la bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils avaient écoutée ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. La confiance dans un couple, imaginez. Si on ne peut pas se faire confiance, c'est quand même dommage. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dont il est dit. J'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Les œuvres de Dieu étaient cependant faites depuis la fondation du monde, car il a dit quelque part à propos du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et de nouveau, dans ce passage, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Ainsi, puisqu'il a réservé à certains d'y entrer, et que ceux qui avaient reçu les premiers cette bonne nouvelle n'y entrèrent pas à cause de leur incrédulité, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant, bien longtemps après, par la bouche de David, comme il a été dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. On peut, sur ce simple verset, on peut simplement évoquer le fait que quand on résiste, à chaque fois que je n'écoute pas ce que Dieu dit, mon cœur s'endurcit. On peut regarder ça en regardant notre nombril. Et on le fait des fois quand on prêche. Hein. Est-ce qu'on voit le côté de Dieu qui nous supplie ? Son cœur à lui. Dieu qui nous supplie. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. En effet, si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. Sur ce texte-là, il est question du repos, et en même temps, cette prédication, on va essayer de regarder un peu le cœur de Dieu, mais en même temps, j'aimerais aussi évoquer le fait que, bien souvent, on ne vit pas ce qu'un chrétien, une chrétienne devrait vivre. Quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui aime le Seigneur, quelqu'un qui considère les voies de Dieu dans sa vie, qui considère pas simplement les voies et le chemin, je vais insister là-dessus, mais quelqu'un qui considère la personne de Dieu. La personne de Dieu. C'est-à-dire que nous qui sommes ses enfants, des fois on lui demande certaines choses. Et des fois, il nous dit non. Des fois, il nous dit, t'es sûr ? Des fois, il nous dit oui. Mais il a son avis sur les choses. Et lui qui est Dieu, quand il nous parle, c'est pas pour rien. Et quand on considère ce qu'il nous dit, on vit dans le repos. Vraiment. On vit dans le repos. Une paix qu'on peut pas expliquer. Parce qu'on sait que nos vies sont dans sa main. Donc quand on lui demande quelque chose, que ce soit oui ou que ce soit non d'ailleurs, le nom de Dieu, mais quelle sécurité et quel bonheur! Parce que c'est comme à des enfants. Si à des enfants, on devait toujours leur dire oui dans tout ce qu'ils veulent, on en ferait des enfants bien malheureux, parce que des fois, ils nous demandent des choses qui n'auraient pas de sens. Et on leur dirait oui, et ils se feraient du mal. Heureusement qu'on est là pour leur dire non, ça tu ne peux pas, tu vas te blesser, tu vas... Vous comprenez ce que je veux dire? Et Dieu, il est pareil avec nous. Le nom de Dieu, mais quel bonheur! Quel bonheur! Moi, ça me va, moi, d'être un enfant devant Dieu. Moi, ça me va. Qu'ils me disent non de temps en temps, ça me va très bien. Mais ça, c'est quand on connaît le cœur de Dieu. Alors, je prétends pas le connaître énormément, mais j'y ai réfléchi. J'y ai déjà réfléchi. Considérer pourquoi il me parle, pourquoi il me dit ça et pas ça, etc., etc. Le Seigneur veut qu'on puisse expérimenter son repos. Il veut qu'on puisse vivre en marchant tranquille. Il veut nous voir marcher sur du plat. Alors vous allez me dire, mais non, le sentier étroit, ça grimpe. Ouais, mais Dieu, on le verra. Il veut aplanir nos... C'est écrit ou c'est pas écrit ? C'est écrit. Et nous, on se dit, non, ça va monter. Oui, c'est vrai que notre vie, elle est faite de montagnes, de creux, de vallées. C'est vrai. Mais Dieu veut aplanir nos sentiers. C'est écrit. Et celui qui a un sentier aplani, quand bien même il traverse la montagne, c'est facile, parce que le sentier est aplani. Et pourtant, lisons ensemble ces quelques versets dans Jérémie. C'est un livre qui n'est pas facile, Jérémie, parce qu'il est, il est dur. Mais combien j'ai reçu en lisant ce livre ? Parce que c'est un livre où on touche un peu plus, on accède peut-être d'une manière un peu plus proche du cœur de Dieu. Parce que quand Jérémie parle, c'est Dieu qui parle. Et Dieu qui évoque ses propres sentiments, ses propres ressentis, ses douleurs, ses souffrances. Est-ce que vous pensez que Dieu pleure aussi ? Mais bien sûr qu'il pleure. Jérémie, chapitre 8. Alors, selon les versions que vous avez, les versets ne vont pas forcément correspondre. Dans la Louis II, c'est 8, verset 20. Alors, dans d'autres, je crois que Sommer, c'est un peu différent, je ne sais pas. Le verset que je commence à lire commence par « La moisson est passée ». Je lis « La moisson est passée, l'été est fini, et nous ne nous sommes pas sauvés ». Une triste réalité. Dans cette lecture, pensons à la moisson des âmes. Pensons à ce moment où les anges reviendront et ils prendront avec eux ceux qui sont censés être avec le Seigneur. Et ceux qui ne sont pas censés être avec le Seigneur resteront là. La moisson est passée, l'été est fini, nous ne sommes pas sauvés. Regardez ce que dit Dieu. Je suis brisé par la blessure de la fille de mon peuple. C'est le cœur de Dieu, ça. Je suis sombre, la désolation me saisit. C'est Dieu qui parle. N'y a-t-il plus de baume en Galade ? N'y a-t-il plus de médecin là-bas ? Pourquoi donc le rétablissement de la fille de mon peuple ne progresse-t-il pas ? Oh, si ma tête était de l'eau ! Si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Dieu qui pleure. Il pleure sur ceux qui ne sont pas entrés dans le repos. Il pleure sur ceux qui ne veulent pas entrer et qui pourraient encore. Vous savez, on continue la tête baissée dans nos trucs. On court à droite, on court à gauche, on file tout droit, on revient, on est sans cesse agité, on est sans cesse en train de faire toutes sortes de choses. Et on s'inquiète, et on s'angoisse, et ceci, et cela, et on n'arrête pas. Et là-dedans, ça court. Des fois, certains n'en peuvent même plus dormir. Tellement ça cogite là-dedans. Et le Seigneur, il pleure aussi sur ces situations. Parce qu'il voit son peuple, des personnes même qui ont cru dans l'œuvre de son Fils à la croix du calvaire, et pourtant qui demeurent dans une situation où ils sont encore en train de courir, de se fatiguer. Et Dieu se dit, mais si seulement je pouvais faire quelque chose. Quoi, Dieu qui dirait ça ? Si seulement je pouvais faire quelque chose, mais Dieu est tout puissant. Alors pourquoi à des moments il ne peut pas faire ? Parce que Dieu nous laisse libres. Dieu s'est imposé une limite, celle de notre choix à nous. Celle de la limite de ce qu'on veut faire nous. Et ce que nous on a décidé, que ce soit de dire oui ou de dire non à Dieu, il ne peut que le respecter. Et quand il va nous voir prendre un mauvais chemin, Il n'a pas d'autre choix que de nous laisser libres. Et parfois, les conséquences seront heureuses, et parfois, les conséquences seront malheureuses. Et quand Dieu nous voit prendre un mauvais chemin, imaginez des parents qui voient leur enfant mal tourner. Le père, la mère, ils voient que leur fils... Combien de parents ont vécu ça? Ils voient que leur fils fait n'importe quoi. Ils aiment leur enfant. Ils n'approuvent pas ce que fait leur enfant, mais ils aiment leur enfant. Vous ne croyez pas que ces parents ils sont tristes pour certains de savoir que leur enfant est en prison? Quelle tristesse pour le cœur d'un père, d'une mère, qui se rappelle avoir vu ce beau petit bébé le jour de la naissance, les beaux premiers sourires de ce bébé, et aujourd'hui il est en prison. Quelle tristesse dans le cœur des parents. Et Dieu, son cœur, il est le même à notre égard quand il nous voit nous enfermer dans nos prisons, dans nos fonctionnements, toujours les mêmes. Le cœur de Dieu pleure parce qu'il aimerait tellement nous savoir dans un meilleur état. C'est aussi simple que ça. Dieu pleure parce qu'il sait qu'un jour, il va y avoir un jugement aussi sur cette terre. Et il veut nous épargner du malheur. Dieu, il pleure de savoir que des hommes ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez. Il pleure vis-à-vis de tous ceux et celles qui se perdent. Et Dieu voit que des personnes se créent toutes seules des situations pénibles, difficiles, à cause de leurs mauvais choix. Tout simplement. Parce que, une fois de plus, il peut nous parler, il peut nous avertir, mais il ne nous forcera jamais à faire quoi que ce soit. Et nous porterons toujours la conséquence de nos choix, mais il nous rappelle l'importance de nos choix de vie. Le choix que tu fais, tu l'assumes. Ça, c'est une vérité depuis toujours. Adam, il a dû assumer son choix. Depuis le départ, c'est comme ça. Mais quand Dieu voit qu'on fait les mauvais choix, mais quelle tristesse dans son cœur! Il pleure. Il pleure sur nous. Regardez justement dans le cœur de Dieu. Psaume 34. Regardez. Le cœur de Dieu, justement. Psaume 34, moi je vais le citer pour aller un peu plus vite. Psaume 34, versets 7 à 11. Quand quelqu'un a fait des mauvais choix, se retrouve dans sa prison et commence à réaliser son état, et qu'il commence à considérer Dieu et son état, et qu'il commence à se dire, mais... Je suis bien malheureux dans mon état. Je suis bien triste dans ce que je traverse en ce moment. Regardez ce qui est écrit. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. Et je peux vous dire qu'il ne va pas traîner. Il ne va pas traîner parce que le cœur de Dieu est serré quand il nous voit dans nos mauvais trucs. L'ange de l'Éternel, regardez ça. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. C'est quoi les lionceaux ? C'est nous, oui. Un peu plus. Les lionceaux, c'est quoi? C'est les enfants du lion. Et le lion, c'est quoi? C'est le symbole de quoi, le lion? Du roi des animaux, le roi. Les lionceaux, c'est des petits rois. C'est les roitelets. Et ceux qui se disent, je fais ce que je veux. C'est moi qui décide. C'est pas lui, là, qui va me dire ce que j'ai à faire. Voilà un beau lionceau. Un beau lionceau. Et ce beau lionceau, qu'est-ce qu'il va connaître ? La disette et la faim. Tandis que celui qui se dit « Moi, je suis pas une grand-chose, mais il y en a un qui règne sur ma vie. » Celui-là se réfère, il fait pas le roi Tolé, mais il considère un autre roi sur lui. Un lion, un vrai. Celui-là ne sera privé d'aucun bien. Et malheureusement, beaucoup n'ont pas compris que Dieu, dans son cœur, il avait tellement de bienveillance à notre égard. Et il y en a plein qui considèrent que ce que Dieu nous dit, c'est des trucs pénibles pour nous embêter. Alors que Dieu, la seule chose qu'il recherche, c'est notre bonheur. La seule chose qu'il recherche, c'est ton bonheur. La seule chose que Dieu recherche, c'est la paix que tu puisses connaître dans ton cœur. C'est la seule chose qu'il désire. Et toi, peut-être que tu t'empêtres dans ton « moi, je fais ce que je veux ». Mais fais ce que tu veux. Mais tu vas être malheureusement triste, souffrant, souffrante, angoissée, inquiète. Quand Dieu te promet, il te dit que son ange campe autour de toi. Il campe. Vous imaginez camper. Donc, il met sa tente là autour. On a vu la tente tout à l'heure. Il met sa tente autour et de telle manière qu'au moindre danger, paf, il arrive et il te protège. C'est ça l'idée. Hein, il aimerait tellement pourvoir hein, tous nos besoins. Il aimerait tellement nous rassurer par rapport à toutes sortes d'inquiétudes qu'on maintient. On a un feu qu'on n'entretient pas, c'est celui du Saint-Esprit. Et à côté de ça, on entretient un autre feu, c'est celui de nos inquiétudes. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. C'est bien malheureux quand même. Regardons ensemble un exemple. Nombre, chapitre 21. Nombre 21. On va lire à partir du verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer des joncs pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route, parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau. Ce sont des mensonges, ça. Ils ont oublié qu'ils ont la manne tous les jours, que Dieu les a toujours désaltérés quand il fallait. C'est faux, ça. Il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et nous sommes dégoûtés de ce pain méprisable. Donc en fait, ils ne voulaient pas le même pain. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple se rendit auprès de Moïse et dit « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le contemplera conservera la vie. » Moïse fit un serpent de bronze et le plaça sur la perche. Et si quelqu'un avait été mordu par un serpent et regardait le serpent de bronze, il conservait la vie. Ce peuple-là, Dieu l'a sorti haut la main de l'Égypte. Et pas n'importe comment. Ils ont vu toutes sortes de prodiges. La nuée était toujours visible. Ils avaient l'assurance que Dieu était au milieu d'eux. Après, plus tard, ils ont eu même le tabernacle. Ils avaient la manne tous les jours, même les râleurs. Ben oui. Tout le monde avait de l'eau. Et l'eau qu'ils devaient boire, ça c'est, à mon avis, les détails qu'on ne regarde pas, mais je suis convaincu que l'eau, une eau qui sort du rocher, il n'y a pas meilleur. Hein. Il n'y a pas meilleur. C'était pas de l'eau boueuse hein, qu'ils avaient à boire. Hein. C'était de l'eau de source. Les vêtements qu'ils avaient ne s'usaient pas. C'est écrit, hein. Les malédictions des ennemis, regardez Nombre, un peu plus loin, les malédictions des ennemis étaient transformées en bénédictions. Ça, c'est le bon berger. C'est le bon berger qui agissait pour son peuple. Les bons comme les méchants, d'ailleurs. C'était pareil pour tout le monde. C'était la grâce de Dieu au quotidien. Dieu qui se plaît à bénir, parce que son cœur est comme ça. Dieu, il bénit, il veut bénir, il veut faire du bien, il veut donner sa paix, il veut protéger, il veut garder. Le berger était aux petits soins pour son peuple. Et ici, on a des roitelets là. Il y a des lionceaux qui sont là. Et des personnes qui ne réalisent pas tout ce que Dieu fait pour eux au quotidien. Tout ce que j'ai cité là. C'est une œuvre de Dieu qu'ils faisaient chaque jour. Les vêtements qui ne s'usaient pas, ils ont erré quand même un moment dans le désert. Les vêtements ne se sont pas usés. Ni les chaussures. Pourtant, ça devait être costaud quand même, le désert, la poussière, tout ça, tout ça. Dieu entourait son peuple de sa grâce et tous ceux qui ne connaissaient pas le cœur de Dieu. C'est pour ça que je parle de l'importance de connaître son cœur. Parce que ceux qui ne connaissaient pas le cœur de Dieu, ils passaient à côté de tout ça. Ils passaient à côté de l'évidence que Dieu était auprès d'eux, les entourait de sa grâce continuellement dans toutes sortes de domaines. Ils n'avaient même pas à s'inquiéter du chemin à suivre parce que c'est la nuée qui les guidait. La direction, rien à faire, juste à suivre. C'est top quand même. C'est ça que Dieu veut faire dans notre vie. Il veut mettre une nuée devant nous et c'est la parole de Dieu. La nuée qui va nous guider dans nos choix, dans nos décisions. Et nous, on veut faire comme si la nuée n'était pas là et on veut faire ce que nous voulons. Mais si tu vas faire ce que tu veux, tu vas à la gauche, tu vas à la droite. L'autre jour, on était chez les Azaïs, je vous salue, si jamais vous me voyez. Et ils nous rapportaient que régulièrement, quand ils amènent les brebis, il y en a qui vont à droite et à gauche et qui s'en mêlent dans les buissons. Et ils sont obligés d'aller les enlever. Alors qu'elles pourraient suivre le troupeau et profiter de la prairie dans laquelle ils les emmènent, etc. Mais il y en a toujours qui partent à gauche, qui partent à droite, qui pensent que l'herbe est plus verte ailleurs. Et finalement, ils s'en retrouvent bien malheureuses. Dieu veut nous entourer de sa grâce. Et ici, j'aimerais éclaircir un terme, parce que Dieu, quand je dis que Dieu entoure de sa grâce tous les jours, la protection, l'ange de l'Éternel qui campe autour de ceux qui le craignent, ça faisait partie de la protection. Quand il est écrit que Dieu envoya des serpents brûlants, c'est pas tout à fait juste. Disons que pour un moment, un court temps, il a levé la protection. C'est plutôt ça qui s'est passé. C'est-à-dire que jour après jour, la protection de Dieu était sur le peuple. Et les serpents ne venaient pas. Ils étaient en territoire où il y avait toujours des serpents comme ça. Et quand Dieu envoie les serpents, il ne les envoie pas en fait. Il dit, vous voulez m'abandonner, vous allez savoir ce que c'est que d'expérimenter mon absence. Voilà ce que Dieu fait expérimenter au peuple. Il fait expérimenter au peuple son absence. Et quand Dieu n'est pas là, qu'est-ce qui se passe? Le danger, il arrive de suite. Les serpents sont venus de suite. Pourquoi? Parce que Dieu a levé la protection qui était tous les jours sur le peuple. Et les serpents sont venus. Il ne les a pas envoyés. Il les a laissés passer. C'est pas tout à fait pareil. Parce que ça montre que chaque jour, le peuple était protégé. Chaque jour. Et il ne le réalisait pas. Et il râlait, il disait, Seigneur, laisse-nous tranquille. Ok, je vous laisse tranquille. Paf, les serpents arrivent. Ah, mince, on s'est trompé. Si seulement on réalisait à quel point Dieu nous aime. La conclusion de cette histoire, elle est quand même... Heureusement, il y en a qui sont sauvés, mais on peut pas éviter le bilan quand même. Vous avez vu avec moi, le bilan est lourd quand même. Verset 6. ils mordirent le peuple, et il mourut beaucoup de gens en Israël. C'était des millions de personnes. Donc beaucoup de gens sur un grand peuple, ça fait quand même beaucoup de gens. Et il y en a qui sont morts. Il y en a qui sont morts, frères et sœurs. Il y en a qui sont morts. À force de vouloir dire, Seigneur, laisse-moi tranquille, laisse-moi vivre ma vie. Tu m'embêtes avec tes commandements, avec tes trucs. Et là, la parole de Jérémie qu'on a lue tout à l'heure, elle revient. Oh, si ma tête était remplie d'eau. Si mes yeux étaient une source de larmes, la version Sommer dit une fontaine. Je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Cette parole, elle est, c'est Dieu qui l'a dit. Elle n'est pas dans le temps. Hein. Ce n'est pas simplement au moment où il y a eu les exilés de Jérusalem. Hein. Cette parole, elle est valable quel que soit l'âge, quel que soit le temps, parce que c'est Dieu qui l'a dit. Et Dieu, il n'est pas dans le temps. Donc quand Dieu dit une parole, elle est hors du temps. Et cette parole-là, elle est vraie pour ce moment-là des serpents brûlants. Dieu a pleuré à nouveau sur ceux qui sont morts. Et toi, peut-être qui persistes dans tes mauvais fonctionnements, dans tes mauvaises directions, eh bien le Seigneur, il pleure sur toi parce qu'il voudrait tellement te voir en meilleur état que tu ne l'es aujourd'hui. Si seulement tu voulais le considérer, lui. Regardez un peu plus loin, chapitre 29 de Jérémie. C'est si Jérémie savait à quel point ces paroles d'espoir étaient citées dans nos prédications, il se dit « Oh là 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 là, j'ai dit tellement de paroles dures. » Et finalement, la parole qu'on cite le plus de moi, c'est une parole d'encouragement. Ça ferait du baume au cœur à Jérémie s'il nous entendait. Mais cette parole même d'encouragement, elle a la suite aussi. Dieu dit, verset 11, « Je connais, moi, les desseins que je forme à votre sujet. » On peut le dire à un individuel. Je connais les desseins que je forme à ton sujet. Oracle de l'Éternel. Desseins de paix et non de malheur. Afin de te donner un avenir fait d'espérance. Je reprends le texte tel qu'il est écrit. Alors vous m'invoquerez et vous pourrez partir. Vous intercéderez auprès de moi et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Parce que c'est ce que Dieu veut. Car vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous. Oracle de l'Éternel, je ferai revenir vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations, ça c'est pour Israël bien sûr, et de tous les lieux où je vous ai bannis. C'est aussi pour nous parce qu'on sera rassemblés dans le ciel. Nous qui sommes des exilés sur cette terre. D'accord ? Je vous ferai revenir dans ce lieu où je vous ai déportés. Cependant, et ce verset 15 il est terrible. Cependant, vous dites, Dieu nous a suscité des prophètes. À Babylone. C'est terrible. C'est terrible. L'endurcissement d'un cœur. Dieu, il avait des projets de paix. Il avait des projets de bonheur pour son peuple. Et d'ailleurs, ceux qui sont à la Babylone, c'était les moins malheureux. C'était les moins malheureux. Parce que, ayant accepté de se rendre, eh bien, ils ont quand même pu vivre normalement. Ceux qui sont restés en Israël, ils se sont entêtés. Ils sont restés dans leur fonctionnement et malheureusement, ils ont souffert du roi Nebuchadnezzar qui est venu après. Mais Dieu, ce qu'il voulait, c'était bénir son peuple. Ça n'a jamais changé. Et Dieu veut nous bénir. Dieu veut te bénir ce matin. Et quand Dieu te voit faire un mauvais choix, quand il te voit t'entêter dans tes mauvais trucs, il pleure sur toi. Il pleure sur toi. Parce qu'il ne peut rien faire. Il ne peut rien faire parce qu'il te laisse libre. Si seulement on pouvait apprendre à reconnaître le Seigneur, apprendre à mieux discerner son cœur. On a lu tout à l'heure quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend et il le délivre de tous ses... Il accourt comme s'il attendait que ça. Et c'est la réalité des choses. Regardez Luc 15, je vous le cite. Et c'est quand le fils prodigue revient. Le fils prodigue, il a fait quand même n'importe quoi. Mais ce qu'il a fait de bien, c'est qu'à un moment donné, il a réfléchi. Il a commencé à considérer le cœur de son père. Alors que lui, il était en train de garder les pourceaux, il se dit, mais punaise, même les serviteurs de mon père sont bien traités. Si seulement je pouvais être un serviteur de mon père, je serais encore mieux traité que je le suis aujourd'hui. Il a commencé à considérer la bonté de son père. Il a commencé à essayer de se mettre dans la peau de son père. D'essayer de le comprendre. Pour se juger après lui-même. Essayer de comprendre qu'en fait, il a offensé Dieu. Qu'il a offensé son père. Et que c'est lui qui avait plutôt des torts. Alors il réfléchit en lui-même. Et c'est ça la beauté du Seigneur. Je cite versets 23 et 24. Le père qui reçoit son fils, amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Le cœur de Dieu, j'ai parlé du cœur de Dieu qui pleure. Il y a le cœur de Dieu qui se réjouit. Le cœur de Dieu se réjouit quand quelqu'un revient de ses mauvaises voies. Le cœur de Dieu se réjouit quand il voit quelqu'un, même s'il a fait des mauvais choix, qui commence à raisonner comme il faut, à l'endroit. Qui commence à se remettre à sa place et à remettre Dieu à sa place. Le cœur de Dieu se réjouit parce qu'il sait que le fruit, il ne se réjouit pas pour lui-même, pour se dire « mais je vous l'avais bien dit ». Non, ce n'est pas ça. Pourquoi Dieu se réjouit ? Parce qu'il sait que ce revirement de situation sera bon pour nous. C'est toujours la même chose. Parce que Dieu veut qu'on soit heureux. Alors quand il voit qu'on fait un bon choix, il est heureux, tout simplement. C'est pour ça que le cœur du Père se réjouit. Dieu n'a pas d'autre désir que de nous rendre heureux. Mais malheureusement, si on persiste dans nos mauvais choix, il ne pourra jamais nous approuver. Et il ne pourra pas intervenir, parce que nous devrons tout assumer. Ce proverbe, je l'ai cité tout à l'heure, je vous donne la référence, si jamais vous prenez des notes, Proverbe 3, 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne joue pas au lionceau. Ne joue pas au lionceau. Reconnais-le, à l'inverse, dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ça, c'est le cœur de Dieu qui se réjouit de voir quelqu'un qui finalement commence à se dire « Peut-être que je ne suis pas dans la bonne voie. Peut-être que ma sagesse me trompe. Peut-être que je vais commencer à regarder ce que Dieu pense de ce que je veux faire. » Et c'est là qu'on commence à s'interroger de ce que Dieu pense. Et c'est là que ça commence. La crainte de l'Éternel commence. Et voilà les bonnes décisions, les bons choix qui vont commencer. Et c'est ainsi que nos sentiers seront aplanis. Parce que Dieu va se réjouir de pouvoir aussi s'investir à côté de celui qui choisit de faire de Dieu son appui. Celui qui sait reconnaître l'Éternel dans toutes ses voies, se retrouve avec des sentiers aplanis. Parce que la grâce de Dieu va à nouveau pouvoir travailler. Comme ce peuple d'Israël qui était entouré jour après jour, 24 heures sur 24, de la grâce de Dieu, que ce soit pour la nourriture, le vêtement, la protection, tout était là. Tout était là. Le jour où il commence à dire « Dieu, laisse-nous tranquille », le danger est venu. Et beaucoup sont morts. Et ceux qui reviennent, ceux qui se disent « Ok, j'ai voulu faire moi-même à ma guise ». Et je suis allé d'échec en échec. Seigneur, ce matin, je veux considérer ce que tu fais. J'aimerais terminer ce message avec cette lecture dans l'évangile de Luc. J'ai introduit sur le repos, parce que c'est vrai. Celui qui commence à mettre Dieu à la place où il doit être ne pourra que connaître le repos du cœur, le repos de la foi, parce qu'il sera conscient de cette grâce qui est autour de lui dans tous les domaines de sa vie. Il sera conscient du fait que Dieu n'a jamais voulu autre chose que le bien, le bonheur, la paix, la joie pour nous. Je ne dis pas que la vie chrétienne est une vie jonchée de pétales de rose, mais à l'intérieur, le chrétien il peut traverser des tempêtes. Quand Jésus est dans la barque ne coule pas. Ce n'est pas possible. La barque ne coule pas quand Jésus est dans le cœur. Quand Jésus est dans... Quand il règne sur nos vies, la paix de Dieu, elle est dans le cœur. Qu'on subisse même des injustices ou pas, on arrive à dire « pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Moi, j'aime cette parole parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, parce que finalement, Jésus voit au-delà de l'injustice qui est portée sur lui. Il considère des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Et il prie pour eux. Quand vous subissez des injustices, quand on subit des injustices, Seigneur, bénis-le, bénis-la. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il ne comprend pas ce qu'il dit. Des fois, ce n'est pas évident. Mais je crois qu'il y a beaucoup à gagner, à raisonner comme ça. Et dans Luc, au chapitre 10, on voit justement le contraste entre la personne qui est dans le repos et la personne qui s'agite et qui court. Verset 40. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fit-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de m'aider. » Vous savez, cette subtilité, je ne sais pas si elle est féminine ou pas, mais où elle arrive à accuser sa sœur et Jésus en même temps, en une seule phrase. Waouh ! Double coup. « Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Jésus lui dit, « Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Essayons de nous mettre dans cette affaire. Jésus est invité à un repas par Lazare, Marthe, Marie et ses disciples, qui sont tous là. Jésus est en train de partager, de donner quelque chose. Tout le monde écoute, sauf Marthe, qui s'agite, qui fait... Alors, vous allez me dire, bah oui, mais il fallait bien que le repas soit fait. Ok. Jésus, il partage, il est à table, et il voit, vous ne croyez pas qu'il a vu Marthe ? Il devait voir que ça. Il devait juste voir Marthe. Alors certainement qu'il devait délivrer son enseignement, il devait continuer à discuter, etc. Mais il voyait quelqu'un qui s'agitait. Il voyait quelqu'un qui courait. Et il voyait quelqu'un qui ne pouvait pas profiter de ce qu'il donnait. Quelqu'un qui, sans le vouloir, se privait d'un bon repas. Se privait de l'invitation que Jésus lui donnait. Certes, Marthe avait invité Jésus chez elle. Mais Jésus d'abord invitait Marthe à recevoir de lui quelque chose, un repas qui venait du ciel. Et Marthe se privait de ce que Jésus était en train de donner. Et on a tout le contraste, où finalement, on voit Jésus qui voit Marthe s'agiter et qui ne réagit pas. Parce qu'au contraire, Marthe demande à Jésus, « Dis à ma sœur de m'aider. Dis à ma sœur de rentrer dans mes mêmes problèmes. Dis à mes sœurs de m'accompagner. Dis à ma sœur de m'accompagner dans mon stress. » C'est ça qu'elle demande. Alors que Jésus dit, « Mais si toi, tu venais plutôt accompagner ta sœur à m'écouter. » Et en fait, Jésus ne réagissait pas. Ça devait agacer Marthe, parce que lui était là, il la voyait faire, il voyait qu'elle s'énervait. En plus, lui était là. Il devait continuer à partager sans rien réagir, sans bouger le petit doigt. Il voyait Marthe qui devenait folle et il ne bougeait pas. Imaginez la scène. Et quand Jésus lui répond, c'est une parole qui est douce, mais ferme. En d'autres termes, il n'a pas justifié Marthe. Et dans le passage, on ne voit pas Jésus qui remercie Marthe de toutes ses agitations d'ailleurs. Merci pour les triples services de ce repas que tu nous as donné. Peut-être qu'un seul service aurait suffi et ce serait occasionné moins de problèmes. La simplicité. Vous croyez que Jésus il attendait le triple service, la double entrée, le plat de résistance, le fromage, le plateau de fromage, le dessert, le café, le digestif. Jésus n'était pas venu pour se péter la panse, comme on dit. Il n'était pas venu pour ça. Il était venu pour partager avec des amis. Souvent, c'est le côté français, ça. On veut passer du temps avec des personnes et on veut sortir le grand jeu à chaque fois. Le but du jeu, c'est pas de sortir le grand jeu, c'est pas de montrer notre belle vaisselle et de montrer comment on cuisine bien. Le but du jeu, c'est d'être avec les gens. On passe à côté de l'essentiel, souvent. Jésus, il était en peine pour Marthe et il ne l'a pas justifié. Et il lui a fait réaliser qu'il y en avait une qui était dans le repos et il y en avait une qui s'agitait. Il y en avait une qui avait reçu et il y en avait une qui n'avait pas reçu. Et finalement, le cœur du Seigneur, c'est toujours la même chose. Il aurait tellement aimé que Marthe puisse aussi recevoir ce qu'il avait à dire. Le repas, c'était accessoire. Ils auraient peut-être trouvé une autre solution. Le Seigneur, il est tellement triste de nous voir nous agiter, nous inquiéter, nous mettre dans ces prisons. Et le cœur de Dieu pleure sur cet état. Et le Seigneur, il voudrait tellement qu'on puisse arriver à nous reposer en lui, à rentrer dans son repos. Je ne sais pas quelle situation tu traverses en ce moment. Tu as peut-être des soucis qui sont légitimes. Mais si tu commences à considérer qu'en tant qu'enfant de Dieu, le Seigneur est au-dessus. Tu as peut-être des projets, mais Dieu est au contrôle. Donc si à un moment donné, dans ton projet, tu t'arrêtes, et qu'après tu reprends, le Seigneur le sait. Et si ça se fait, ben merci Seigneur, parce qu'il l'a permis. Mais si ça ne se fait pas, merci Seigneur aussi. Parce que si tu ne l'as pas permis, c'est peut-être parce qu'il y avait ceci ou cela qui aurait été mauvais pour moi. Quand je commence à considérer Dieu, mes sentiers sont aplanis. J'arrête de m'agacer, j'arrête de m'énerver, j'arrête de m'angoisser parce que ceci ou cela ne se fait pas comme je veux, dans le temps que je veux, dans le timing que j'ai décidé, etc. etc. Et le Seigneur, si seulement il nous voyait considérer ce qu'il veut nous donner, son cœur serait tellement heureux de nous voir heureux. C'est tout ce qu'il désire. On se recueille quelques instants. Quand Jésus fait ce reproche à Marthe, on voit clairement qu'il n'avait pas demandé à ce que Marthe fasse tout ça. Sinon, il lui aurait pas fait ce reproche. Elle était passée à côté de quelque chose d'essentiel. Et la suite des écrits nous montre qu'elle a probablement retenu la leçon. Le Seigneur nous appelle les uns les autres peut-être à réfléchir sur nos chemins, sur nos voies. Le Seigneur aimerait tellement se réjouir à ton sujet, au lieu de pleurer. Et parfois, quand il y a des situations difficiles qui arrivent, c'est bien souvent Dieu qui est obligé d'accéder à nos caprices. Quand bien même ces caprices sont contre-productifs. Est-ce qu'on réalise, frères et sœurs, que le peuple d'Israël, qui réclamait que Dieu les laisse tranquilles, c'était un caprice. Mais Dieu savait que ce caprice était vraiment dangereux. Et pourtant, Dieu, à but pédagogique, éducatif, il a accédé aux caprices. Et malheureusement, tellement de personnes en ont souffert. Le Seigneur ne mettra pas toujours une barrière à nos caprices, mais il permettra des situations pour lesquelles on risque de souffrir. Mais le but, c'est qu'on comprenne que ce n'était pas ce qu'il voulait pour nous, mais qu'au contraire, ce qu'il voulait, c'est nous donner bien mieux. Le Seigneur t'invite ce matin à réfléchir sur tes voies, à t'examiner toi-même et à examiner le fait que Dieu n'ait jamais voulu te faire souffrir pour quoi que ce soit. Le Seigneur, son seul désir, c'est de te voir heureux. Le seul désir de Dieu, c'est de te voir épanoui. Le seul désir de Dieu, c'est de te voir dans sa paix. Et le Seigneur, il désire dès maintenant que tu puisses expérimenter ces choses. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Ce matin, tu peux le faire. Ce matin, tu peux le faire. Peut-être que cette prédication te fait réaliser que Dieu, il n'est pas là comme quelqu'un qui te punit. Mais au contraire, il a toujours cherché ton bien. Toujours. Réalise ton erreur ce matin. Réalise que tu n'as pas considéré Dieu jusqu'à aujourd'hui et qu'il est peut-être temps que ça change. Je ne vais pas faire d'appel, j'aimerais simplement qu'on réponde dans notre cœur. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que j'en suis? Seigneur, toutes ces années, tous ces mois, où j'ai changé d'inquiétude, j'ai été guéri d'un truc, il a fallu que je retombe dans un autre piège. Seigneur, j'en veux plus de ça. Seigneur, aide-moi à me reposer sur toi, à faire de toi mon berger. Je ne peux que m'engager à promettre que le Seigneur campera autour de ceux qui le craignent. Ça ne peut pas être autrement parce que c'est écrit. Le Seigneur n'aura pas d'autre choix que de donner la paix à celui qui considère honnêtement sa situation et qui fait appel à lui, parce que c'est écrit aussi. Celui qui revient de ses mauvaises voies, Dieu se réjouit. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole. Te remercions pour ton cœur. Parce que quand on découvre ta parole, on réalise que tu es notre vis-à-vis, Seigneur. Et tu nous dévoiles les pensées de ton cœur. Tu nous montres, Seigneur, comment nos erreurs te font souffrir. Tu nous montres combien nos mauvais choix apportent dans ton cœur de la tristesse, des pleurs. Seigneur, on te rend grâce aussi parce que on a dans ta parole cette indication qui nous montre qu'on peut revenir. Qu'on peut revenir auprès de toi, au bénéfice de ta garde, au bénéfice de ta protection, de ta grâce, qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, pour qui tu es pour nous. Et je te prie, Seigneur, pour que ce matin, personne ne reparte de ce lieu en ayant compris ces choses. Seigneur, étends ta main, fais-nous grâce. Merci, Seigneur Jésus, pour toutes choses. Amen.